Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacré aujourd'hui à Bernard Arnault et à son empire.
Je suis plutôt contre la médiatisation et je suis plutôt pour la discrétion. Ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître mes marques, de les mettre en avant, de les développer dans le monde. Ma modeste personne est derrière et essaye de faire vivre tout cela, mais n'a aucun intérêt ni aucune volonté de se mettre en avant.
Un patron très discret mais omniprésent ces derniers mois dans le débat public, le patron de LVMH, première fortune mondiale selon le classement annuel du magazine américain Forbes, environ 200 milliards de dollars. Alors de quoi est fait son empire? D'où est parti Bernard Arnault? Comment, à plus de 70 ans, prépare-t-il sa succession? C'est ce que l'on va voir dans cet épisode de Focus avec Martial You, chef du service économie de RTL, et Monique Younès du service culture, parce que Bernard Arnault est aussi un des grands mécènes en France du monde de l'art. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
D'abord, Martial, on va poser les choses. Derrière LVMH, pour Louis Vuitton Mouette Hennessy, il y a quoi? Quelles marques? Quelles entreprises?
Alors, c'est une galaxie. Vous citiez tout à l'heure la fortune estimée de Bernard Arnault. La galaxie LVMH en tant que telle, c'est 400 milliards de dollars à peu près. C'est ce qu'elle vaut en bourse aujourd'hui, cette entreprise. Et vous trouvez Château Yquem, vous trouvez Mouette, bien sûr, Veuve Clicquot, Krug pour les champagnes. Après, si vous allez dans l'univers du luxe, vous avez Dior, Fendi, Givenchy, Guerlain. Je ne peux pas tous les citer, bien entendu, mais vous en avez énormément. Côté presse et médias, vous avez Les Échos, Le Parisien, Radio Classique. Et puis, dans la grande distribution, vous avez une marque connue du grand public qui est Sephora, Le Bon Marché. Pendant longtemps, évidemment, La Samaritaine. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus à proprement parler un commerce. Mais enfin, voilà, La Samaritaine fait partie aussi de la galaxie, a fait partie de la galaxie. En fait, vous avez en plus une chaîne d'hôtellerie de luxe, le groupe Belmond. Pour se donner une idée un peu de cet univers et de cet empire qu'est LVMH, la balance extérieure du commerce français repose sur trois secteurs qui sont les seules choses qu'on arrive vraiment à vendre à l'international, sinon on importe beaucoup, vous savez qu'elle est déficitaire, cette balance commerciale. C'est le luxe, les vins et spiritueux et les avions. La seule chose qui n'appartient pas à Bernard Arnault pour l'instant, c'est les avions, mais sinon, ça vous donne une idée. Deux des trois éléments qui sont les fers de lance de l'économie française à l'international sont en fait dans le giron de Bernard Arnault.
Ouais, c'est un groupe donc incontournable, un géant du luxe et une fortune qui, à l'heure de la crise du pouvoir d'achat, suscite de nombreuses critiques d'ONG ou d'hommes politiques, comme encore récemment Jean-Luc Mélenchon.
Nous avons dans notre pays la pire des offenses. Le premier milliardaire du monde est français. Accumuler de l'argent est immoral. Supposons que j'ai un milliardaire français, premier milliardaire du monde, il a inventé, toc, le vaccin contre le cancer. J'aurais du mal à dire du mal. Et lui, qu'est-ce qu'il a inventé?
Rien.
Il a racheté des boîtes en faillite, il a trié dedans, il a gardé les jolis morceaux, et en vendant le reste, il en a acheté encore d'autres beaux morceaux par-ci, par-là.
On entend donc le patron de la France insoumise, Bernard Arnault. Il aurait fait sa fortune en achetant des boîtes en faillite et en n'en gardant que le meilleur. Dans ce focus, justement, je voulais comprendre comment LVMH est devenu LVMH. Martial, Bernard Arnault, il en a toujours été ou il est arrivé comme ça, justement, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, de rachat en rachat?
Alors, c'est pas faux que Bernard Arnault a racheté LVMH à la faveur du krach d'Octobre Noir en 1987. En fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que vous avez en 1987 Alain Chevalier, le patron de Mouette Hennessy, qui fusionne avec Henri Racamier, le patron de Louis Vuitton. Donc, ça donne LVMH. Mais les deux hommes ne s'entendent pas du tout. Et en fait, l'entreprise vivote, ne se développe pas comme elle aurait dû se développer. Vous avez donc l'un des deux, M. Racamier, une figure de l'époque, qui en sous-marin va demander à Bernard Arnault de créer une société d'investissement, une sorte de coquille vide avec le brasseur Guinness pour racheter à la petite semaine les actions d'LVMH. Arrive le krach de 1987 et en fait, le groupe dont Bernard Arnault est actionnaire, devient propriétaire à 40% de LVMH. Et là, évidemment, à partir de là, il va prendre l'ascendant et devenir l'actionnaire majoritaire, évidemment, de LVMH. Donc, Pour donner raison à Jean-Luc Mélenchon, on peut dire qu'effectivement, il a profité des difficultés boursières de 1987 et d'Octobre Noir et par moment du rachat de pépites qu'il récupère plutôt en bas au bas de la vague et qu'il arrive à intégrer dans la galaxie LVMH, faire des synergies et relancer la marque. Ça, c'est pas faux. Maintenant, LVMH, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'employés en France et dans le monde. Donc, il ne faut pas non plus imaginer qu'il n'y a qu'un homme assis sur tel l'oncle Picsou, une fortune de dollars ou des pièces d'euros. C'est une vraie entreprise, LVMH, avec des vraies marques, avec des vrais gens qui travaillent et qui valorisent aussi le savoir-faire de la manufacture française. Hein.
Mais il vient d'où, Bernard Arnault, Monique, précisément ?
Alors, il est parti d'où ? Il est né à Roubaix. Son père, Jean Arnault, était ingénieur, constructeur de maisons. Il avait fait l'école centrale et il travaillait chez Ferré-Savinel. C'est une entreprise de bâtiments dirigée par M. Étienne Savinel, dont il va épouser la fille, Marie-Jo, et faire deux enfants, Bernard, son aîné, et Dominique. Et donc Bernard Arnault naît dans cette entreprise où son père va prendre un jour ou l'autre la succession, mais il va être foncièrement élevé par ses grands-parents. Déjà, ce grand-père qui était son parrain et qui lui répétait tout le temps, quitte à faire quelque chose, même si ça ne t'amuse pas beaucoup, il faut le faire à fond. Et cette phrase décisive, il ne suffit pas d'être le premier, il faut être le meilleur. Mmh. Et toute sa vie, ça sera ça. Il ne faut pas être le premier, il faut être le meilleur. Et autre personnage très, très important dans la vie de Bernard Arnault, il en parle assez souvent, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère Elisa Safinel, qui l'a élevée et qu'il va surnommer Maminette. Et Maminette a été vraiment très très importante, le gâter, l'aimer, l'éduquer. Et Maminette va considérer son petit-fils qu'elle adorait comme un être exceptionnel, un génie, un surdoué. Et elle va croire en lui plus fort que lui-même. Et c'est un amour insensé, quoi. Elle va se consacrer à peaufiner son éducation, lui qui assimile tout à toute vitesse stupéfiante. Et comme ça, petit à petit, il va commencer à travailler et, comme dit son grand-père, ne pas se suffire à être le premier, à être le meilleur.
Alors, tu parlais de ce grand-père qui l'a marqué et qui l'a accompagné sur des chantiers, hein, sur ces fameux chantiers de BTP. Ça a été quelque chose qui est resté, ça, pour Bernard Arnault. Hein,
oui,
Monique.
Ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire il raconte souvent que ce qui l'amusait beaucoup, c'est d'aller avec son grand-père, c'est les jeudis après-midi, hein, visiter les chantiers. Et là, c'était son grand-père construisait les usines textiles, des maisons particulières, HLM, des écoles, etc. Et puis lui, il voyait ça, il voyait l'évolution des travaux, il s'est renseigné sur les différents métiers, sur les soudeurs, les menuisiers, les maçons, les grutiers. Et il a gardé ça, d'ailleurs.
Il a gardé. Et d'ailleurs, c'est en effet une habitude qui est restée, hein, pour Bernard Arnault, se déplacer, aller dans ses magasins comme son grand-père le faisait sur les chantiers. C'est peut-être aussi ce qui lui a valu à Bernard Arnault d'être critiqué pour des voyages jugés un peu trop réguliers en jet privé, mais oui, Bernard Arnault a la bougeotte et il s'en expliquait sur RTL en 2014.
J'ai appris à aimer le détail, à aimer être au contact de la réalité et je n'aime pas trop les bureaux. Donc je préfère aller dans mes magasins, dans mes ateliers, voir les artisans plutôt que rester dans un bureau et voir tout ce qui peut s'y passer. Comme en général, quand vous arrivez dans un bureau, vous avez une montagne de problèmes, il vaut mieux aller dans les magasins, c'est beaucoup plus distrayant.
Et puis c'est des beaux magasins, en plus souvent.
Oui, mais oui. Alors Sidney Toledano, qui a dirigé Dior pendant longtemps, m'a dit qu'il avait un œil laser. Donc il passe une partie de ses samedis dans les boutiques du groupe, que ce soit Vuitton, Dior, Guerlain, même Sephora. Là, il passe en revue tout et il note tout. Tout ce qui ne va pas, de l'éclairage, des produits au confort des fauteuils. Et le lundi, tout le monde reçoit un rapport détaillé sur ce qu'il faut changer. Et ces virées du samedi l'aide aussi, comme il dit, à sentir l'air du temps et à ne pas se priver de jeter un œil chez les concurrents. Bref, il n'arrête jamais de travailler d'ailleurs, Bernard. Ouais.
Martial ?
Ce qui est amusant, parce qu'il y a l'ennemi juré et historique qui est François Pinault, et sur le parcours, les deux se ressemblent un peu, c'est-à-dire qu'on part du BTP quand même, de planches de bois pour Pinault, là de construction de maisons avec la famille Arnault, et les deux hommes un peu en parallèle, en fait, ont des destins qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils vont délaisser le métier historique du BTP, en l'occurrence pour les Arnaud. Il va réussir à persuader son père de basculer sur ce qui est l'énorme tendance. Il a le nez, hein, parce qu'on est au début des années 70, il a à peine 30 ans, et il arrive à persuader son père d'aller vers la société du loisir qui est en train de naître, celle du Club Med, celle des Trigano, et celle de la promotion des fameux promoteurs propriétaires de résidences secondaires à la mer ou à la montagne. Et donc, il délaisse le BTP pour devenir promoteur immobilier avec une marque que tous les gens de ma génération, hein, quand on a 50 ans, connaissent. Ça s'appelle Ferrinelle. Hein. Écoutez. Ça, je peux vous jurer
Ferrinelle,
que...
propriétaire à la mer.
Ferrinelle,
donc ça a bercé votre enfance, si je comprends bien.
Ah ben ça, je peux vous garantir que tous ceux qui ont 50 ans, qui sont nés dans les années 70 comme moi, ont entendu ça dans la voiture de leurs parents quand ils allaient sur les vacances. C'était dans toutes les radios. Hein.
Mais oui, et c'était effectivement cette classe moyenne qui ne pouvait pas acheter de grandes propriétés, à qui ils construisaient de petites propriétés qui n'étaient pas indignes, mais qui leur permettaient d'accéder à la propriété et d'aller en vacances.
Et ça nous a bétonné un tout petit peu les fronts de mer partout, dans le sud de la France notamment, mais en tout cas, c'était l'accession à la résidence secondaire.
Bernard Arnault, qui veut donc, tu l'as dit Monique, être le premier? C'est aussi en étant le premier qu'on peut être critiqué, et il a l'habitude, hein, Bernard Arnault, illustration d'ailleurs en 2012, quand on apprend qu'il souhaite obtenir la nationalité belge, ce qui lui vaut cette une, restée célèbre, de Libération.
Je la rappelle, hein, hier matin, casse-toi, riche con. Et puis alors ce matin, c'est si tu reviens, j'annule tout.
Et Bernard Arnault, finalement, renoncera, hein, au passage à demander cette nationalité belge. Aujourd'hui, quand on lui parle de sa richesse, il répond que les gens ne connaissent pas bien l'économie et parle emploi créé et impôts payés en France. Martial s'explique comment ces polémiques incessantes autour de cette personnalité. Est-ce que Bernard Arnault, cette immense fortune, il est plus exposé que les autres grands patrons français?
Oui, incontestablement. Il y a deux choses. C'est-à-dire que là, si on reprend la une de Libé, casse-toi riche con, évidemment, c'est une référence à Nicolas Sarkozy, mais il n'en est pas à sa première tentative. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que Bernard Arnault, en 1981, il quitte la France à l'élection de François Mitterrand. Ça fait partie de ces fameux milliardaires qui, à l'époque, ont peur des chars soviétiques et d'une politique socialo-communiste et qui partent. Donc, il y a un passé quand même, il y a un passif. Bernard Arnault, quand il réfléchit à prendre la nationalité belge, il est déjà parti s'exiler en 1981 aux États-Unis, où il va rencontrer un autre petit promoteur de la 5e avenue de New York qui s'appelle Donald Trump.
Ah tiens.
Ils vont
devenir
copains à cette époque-là. Bernard Arnault va rester 3 ans aux États-Unis. Il va tenter l'expérience américaine de monter un gros complexe immobilier en Floride. Ça va être un échec, ça n'a pas fonctionné. Et là, il revient en France à ce moment-là. En 1984, il revient en France, c'est-à-dire au moment du retour de la rigueur, parce qu'il s'aperçoit que finalement, la génération Mitterrand va pas finalement être si dangereuse pour les grandes fortunes françaises. Mais donc, vous voyez, il y a quand même eu un exil à un moment donné. Après, évidemment, c'est un symbole. C'est-à-dire que c'est l'incarnation du milliardaire. C'est facile de tirer à boulet rouge sur Bernard Arnault. Il a raison quand il dit qu'on ne comprend pas l'économie bien souvent et qu'on assimile la valorisation boursière d'un homme qui est actionnaire d'une entreprise à sa fortune personnelle. Ça n'est pas la même chose.
Mais est-ce qu'il y a aussi sa personnalité qui est clivante ?
Alors c'est vrai, et Monique l'a interviewé souvent. Moi, je l'ai croisé à quelques reprises en interview. Ça n'est pas quelqu'un d'extrêmement généreux et bon client, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est intéressant, mais il n'est pas souriant, affable. Alors, peut-être que toi, Monique, tu le vois dans un contexte artistique où il se révèle un peu plus de façon souriante.
Vrai.
Moi, je peux vous dire qu'une interview avec Bernard Arnault sur les dossiers purement économiques, on l'a entendu au début, ça l'ennuie. Il n'a pas envie de parler de ça. Et c'est pour ça qu'il laisse plutôt monter maintenant la génération suivante pour parler de ces questions-là. Parce que ça reste un domaine sur lequel il n'a pas envie de s'exposer. Et il sait de toute façon qu'à chaque fois qu'il va accepter une interview, il va devoir se justifier. Se justifier d'être riche, se justifier d'être montré du doigt.
Monique ?
Alors, effectivement, il est réservé, il est sérieux, mais il a cette autorité naturelle qui peut glacer. Et moi, j'ajouterais aussi que, c'est-à-dire sa prise de risque épate beaucoup. C'est-à-dire, il faut quand même revenir à... Avant même LVMH, à l'affaire Boussac, quand il va acheter Dior, il a 35 ans. Il est convaincu, effectivement, que c'est une grande, grande affaire. Le mot Dior lui parle. Et là, il va convaincre son père d'engager Vérinel, c'est-à-dire d'engager tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils vont mettre leur fortune dans cette entreprise qui est fondée par son grand-père, qui est la chose la plus importante à ses yeux, quoi. Et il dira à son père, le jeu en vaut la chandelle, parce que soit c'est la ruine, soit c'est la richesse absolue, quoi. Et là, vraiment, ça, vous voyez son côté, comment dire, stratège et ambition hors du commun se révèle là aussi, quoi. Et c'est ça aussi qui déroute énormément, parce que c'est un taiseux.
Ouais, Bernard Arnault, tu évoquais sa rencontre avec Donald Trump, qui est devenu président, et c'est vrai qu'il s'affiche aussi, comme ça, avec des chefs d'État. Il a reçu Vladimir Poutine au château Cheval Blanc. Il s'est affiché aussi aux côtés de Donald Trump.
Nous avons parlé de faire des grandes choses dans ce pays, notamment créer des emplois, beaucoup d'emplois.
Cela fait 25 ans que nous fabriquons des produits Louis Vuitton en Californie et nous allons nous agrandir du fait du succès de nos produits. Nous pensons le faire soit en Caroline, soit au Texas. Nous réfléchissons à ces deux possibilités, mais cela se fera prochainement.
Voilà, presque d'égal à égal finalement avec certains chefs d'État.
Oui, parce que d'abord, ce sont deux chefs d'entreprise. Hein. Quand il rencontre le président Trump, ça reste Donald Trump, un chef d'entreprise à l'américaine. Et quelque part, Bernard Arnault, ce serait une superstar aux États-Unis, quoi. C'est le gars qui part dans une activité de BTP en province. Ça énerve chez nous, cette espèce de richesse et de bourgeoisie de province. Ça fait partie du storytelling et du self-made man aux États-Unis. Et puis, il devient l'homme le plus riche du monde, après avoir connu parfois des petits échecs. Bernard Arnault, on n'en a pas parlé, mais cette guerre avec François Pinault, c'est un de ses plus durs échecs. C'est Gucci. C'est-à-dire qu'ils se sont déchirés, ces deux groupes-là. Entre François Pinault, Bernard Arnault, ça a été une guerre fratricide pendant des semaines et des mois
pour racheter Gucci.
Il y a eu des détectives privés qui ont été engagés par les deux milliardaires pour aller faire les poubelles de l'un et de l'autre pour essayer d'affaiblir l'adversaire. À la fin, on est en 2001, Bernard Arnault, LVMH, est obligé admet sa défaite et vend les 20% qu'il possédait à l'entreprise de François Pinault, donc à Kering maintenant, PPR à l'époque. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui a encaissé des échecs et des défaites, quoi. Et ça, c'est parfait pour un Américain. Il a tout pour être effectivement le parfait héros américain et tout pour être détesté en France parce que non seulement il part d'une belle famille bourgeoise de province et il devient l'homme le plus riche du monde, et on a un problème quand avec l'argent, faut dire ce qui est, et la réussite chez nous.
Oui, d'ailleurs, quand il va aux États-Unis, les deux fois où il a été aux États-Unis avec le président Macron, pour des dîners d'État, il est à la table de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, et à la table de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Quoi, il est, c'est-à-dire, on ne se rend pas compte ce que c'est LVMH dans le monde. C'est-à-dire, un jour, c'est Jean-Luc Martinez, qui était président du Louvre, qui me dit, quand on va à l'étranger, c'est le Louvre, Vuitton, Dior.
La France, et c'est Vuitton ça. Et Dior, et c'est le groupe LVMH, Bernard Arnault. Alors, tu évoques le patron du Louvre qui dit l'importance de ces marques, parce que aussi Bernard Arnault, il s'est impliqué dans le monde de l'art, il a investi dans le monde de l'art. Est-ce que c'est, Monique, un levier pour lui d'influence, ou est-ce qu'il y a un intérêt sincère pour cette matière, pour ce sujet ?
Alors, je vais vous dire, les premières émotions artistiques de Bernard Arnault, ce sont certainement des émotions musicales. Il a commencé le piano à l'âge de 5 ans. Il a failli devenir pianiste, mais un jour, son père, qui était violoniste, l'amène voir un concert de Georges Siffra à Lille, et il voit ce que c'est un génie sur scène, quoi. Et il dit... Je ne vais pas être le premier, donc je ne serai pas pianiste, quoi. Vous voyez, là aussi, cette conscience-là. Il a épousé une pianiste, il est vraiment... Il adore ça. Mais sa mère, qui était collectionneuse, l'emmenait tous les dimanches, après la messe, faire le tour des antiquaires à Lille. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, c'est quand même... Il n'est pas... un jour, il a acheté un Monet, comme il aime raconter, et puis voilà, il est devenu collectionneur. Non, sa sœur était commissaire-priseur, donc c'est quelque chose quand même qu'on aimait en famille. Ce qui l'intéressait, avant qu'il puisse acheter des Monets, c'était des peintres comme le Sidaner, qui était quand même un peintre impressionniste assez intéressant, et il le collectionnait, quoi. Et il garde ses tableaux, c'est ce qui est sympathique, jusqu'à présent, chez lui, à la maison, quoi. Ça, il ne s'est pas défait. Après, il a eu de l'argent et il a collectionné énormément. Bon, il ne faut pas être naïf, il faut quand même savoir que ça arrange aussi les affaires. Donc, depuis qu'il s'est vraiment
ça impliqué... Ça arrange les affaires parce que c'est défiscalisé, parce que le mécénat, il y trouve un intérêt aussi financier.
Alors, je vais vous dire, depuis 90, le mécénat est hyper important et LVMH est devenu quand même un des plus importants mécènes des musées français pour plusieurs choses. Parce que ça implique le groupe dans la vie culturelle française. Donc, effectivement, on le fait savoir pour améliorer la réputation des marques.
C'est de la communication.
Et du groupe, et par la même occasion, l'image de son président. Hein. Mais à partir de là, si certains peuvent reprocher à Bernard Arnault de ne rien faire gratuitement, parce que tout ça est défiscalisé des fois à 60 et même à 90% quand il s'agit de trésors nationaux, ils ne peuvent pas lui reprocher de ne rien faire. Parce que quand même, il faut débourser l'argent. Par exemple... Pour le tableau « Le canotier » de Gustave Caillebotte, qui est entré dans les collections nationales, notamment celle du musée d'Orsay, si Bernard Arnault et LVMH n'avaient pas payé 45 millions d'euros, eh bien, le tableau serait vendu à l'étranger.
Mmh. Les œuvres d'art et l'éclectisme de Bernard Arnault, moi, c'est ce qui m'a marqué à Monique quand je me suis replongée dans les interviews que tu avais pu faire de lui ces dernières années sur RTL. Tu évoquais notamment son intérêt pour la musique. Tu l'as vu à des concerts de piano. Lui-même, d'ailleurs, en donne aussi parfois à l'étranger. Tu l'as vu à des concerts de musique électronique. Kraftwerk a oui. des concerts de Kanye West et il y a même un rappeur qui l'a chanté, Bernard Arnault, en la personne de Booba. Narbe Arnaud, mucho dinero, yo te amo, Bernard Arnaud. Beaucoup d'argent, je t'aime. C'est quand même assez savoureux, cette chanson intitulée d'ailleurs LVMH. Alors pour terminer, Martial, ce groupe, quand même, il est en train de préparer l'avenir parce que Bernard Arnaud, il a plus de 70 ans. C'est à ses enfants qu'il va le laisser petit à petit. Il les positionne hein, comme ça progressivement au sein du groupe.
Ah, je rebondis juste deux secondes sur Booba parce que c'est vrai que ces dernières années, et notamment la culture rap urbaine, a énormément fantasmé et communiqué avec ces marques-là, du groupe LVMH et du groupe Kering aussi, mais il y a une vraie culture et un vrai amour pour ces marques de luxe. Alors après, oui, c'est un moment de grande fragilité pour tous les groupes. Et Bernard Arnault était très lié à Jean-Luc Lagardère et il a vu qu'on pouvait rater sa succession aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas faire offense à Arnaud Lagardère que de dire que voilà, Jean-Luc Lagardère est mort sans avoir eu le temps de vraiment laisser son fils prendre les rênes du groupe. Et on a vu que derrière, ça avait été compliqué au point d'aujourd'hui d'avoir un petit peu dissous ce groupe Lagardère en tant que tel. Et c'est une des grandes inquiétudes de toutes ces générations-là. Parce que là, on parle de Bernard Arnault, mais vous avez Vincent Bolloré, mais vous avez le groupe CMA-CGM qui est en train de passer le relais, évidemment, à Rodolphe Saadé. C'est une grande famille, là aussi. Et ce sont des quadras qui sont en train de monter en puissance sur des groupes qui sont des fleurons de notre économie, des groupes familiaux. Il y a toujours un moment de fragilité, malgré ces mastodontes et ces grands empires tels que LVMH, la succession... lorsqu'on la cède à ses enfants, et là il y en a beaucoup hein, des enfants chez
cinq,
Bernard
hein.
Arnault, voilà, il ne faut pas la rater.
Ils sont tous dans le groupe déjà.
Ils sont tous à des degrés divers dans le groupe. Alors c'est vrai que Delphine et Antoine sont en âge, on va dire, de prendre les rênes de façon un peu plus opérationnelle. Ce sont des quadras. Et dans la deuxième noce, on a Alexandre, Frédéric et Jean qui sont... des jeunes trentenaires. Mmh. Donc là, pour l'instant, eux, ils sont en train de monter en puissance. Hein. C'est Alexandre à 31 ans. Mais c'est cette génération-là qui va prendre les rênes. Et c'est pour ça aussi que Bernard Arnault prépare cette succession, se donne un tout petit peu de temps, puisqu'il est en place jusqu'à 80 ans, s'il le souhaite, à la tête du groupe. Mais vraiment, il jalonne parce que un groupe aussi puissant, important et mondialement reconnu que LVMH peut s'effondrer en quelques décennies si la succession n'est pas bien faite.
Mmh. Il est très fier de ses enfants parce qu'il dit qu'il travaille. Lui, il a tenu et il a accompagné ses enfants dans leurs études personnellement.
Il
leur
a pris
donner...
du temps le soir aussi oui, pour les accompagner pour les... dans leurs devoirs et leurs travaux.
Et pour effectivement, parce qu'il a peur que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent, ne s'effrite. Mmh. Et puis il a envie de préserver ça.
Ouais.
D'ailleurs, on peut dire effectivement qu'il ne va pas s'arrêter là, parce que quand il parle du groupe LVMH, il dit c'est une start-up. Vous voyez alors.
C'est bien de concevoir comme ça.
La descendance Arnaud qui se prépare donc à prendre la suite au sein du groupe LVMH. Merci à vous deux, Monique Younès et Martial Youd, de m'avoir accompagné dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est également à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.